Mondial Sport sur RFI. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, Mondial Sport, comme chaque week-end, votre résumé des temps forts de l'actualité. Et quel moment fort que celui vécu aujourd'hui par Tadej Pogacar sur le Tour de France. Le Slovène a assommé la grande boucle par un énorme chrono lors du contre-la-montre de l'avant-dernière étape. Il est le nouveau et sauf catastrophe porteur définitif du maillot jaune. Son compatriote Primoz Roglic, impuissant, perd de peu un titre qui lui tendait les bras. Retour dans un instant sur cette incroyable journée avec Eric Chorin et Thomas de Saint-Léger. Lui aussi est écrase tout, mais d'entrée, le Bayern Munich ne fait ni une, ni deux, mais 8-0 face à Schalke 04 pour ouvrir la nouvelle saison de Bundesliga. Ça donne un peu le ton. Le Borussia Dortmund et le RB Leipzig seront-ils de taille pour empêcher les Bavarois de faire cavalier seul? Il est pour de bon à Aston Villa et il en parle d'abord sur RFI. Bertrand Traoré retrouve officiellement la Première Ligue et quitte Lyon où il rongeait son frein. L'attaquant burkinabé a été transféré pour 18 millions d'euros et il espère contribuer à la réussite d'un club à la peine l'an passé. Également de l'actualité, la Copa Libertadores, pas trop mal parti pour les clubs argentins, pourtant handicapés dans leur préparation par le long confinement du pays, très touché par le coronavirus. Enfin, les obsèques d'Herman Oungpati, alias Ressort, l'ex-international togolais, décédé à l'âge de 75. Franchement, pas grand monde ne l'avait vu venir sur ce coup-là. Tadej Pogacar avait d'ores et déjà réussi le premier Tour de France de sa jeune carrière au départ de Lure à l'heure de s'élancer pour l'unique contre-la-montre de cette grande boucle 2020 si singulière. Mais moins d'une heure plus tard, au sommet de la planche des Belles-Filles, terme de cette 20e et avant-dernière étape, il a réalisé une performance qui restera dans les annales de l'épreuve, presque au même titre que le final épique de 1989 sur les Champs-Élysées entre Greg LeMond et Laurent Fignon. On en parle tout de suite avec l'un de nos envoyés spéciaux sur le Tour, Eric Chorin. Bonsoir Eric.
Bonsoir Christophe.
Une 20e étape que le jeune Slovène Tadej Pogacar a remportée pour détrôner son compatriote Primoz Roglic la veille de l'arrivée.
Ouais, Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Richie Porte sera donc le podium final de ce Tour de France 2020 à l'issue d'un chrono qui a totalement rebattu les cartes. Champion de France de la spécialité, Rémi Cavagna, qui s'était déjà échappé plus de 100 km la veille, a longtemps occupé la première place provisoire, mais cinq coureurs lui sont passés devant. Le Néerlandais Tom Dumoulin, ancien champion du monde du chrono, l'Australien Richie Porte et le Belge Wout Van Aert, respectivement, deuxième, troisième et quatrième. Et celui qui a dominé tout le monde aujourd'hui à la planche des Belles Fille, c'est Tadej Pogacar, vainqueur de sa troisième étape sur ce tour après s'être déjà imposé à la Reims dans les Pyrénées et au Gros Colombier dans les Alpes. Pogacar qui a relégué Dumoulin et Porte à 1 minute 21 et surtout celui qui portait le maillot jaune depuis 11 jours, son compatriote et aîné Primoz Roglic à 1 minute 56. Le jeune Slovène avait d'ailleurs du mal à réaliser qu'il venait de remporter son premier Tour de France dès sa première participation à seulement 21 ans.
Je ne réalise pas, c'est incroyable. Aujourd'hui, j'étais tellement heureux de prendre le départ à la deuxième place, et maintenant je porte le maillot jaune. C'est impossible à décrire, ma tête a explosé. Parce que Roglic avait l'air si fort tout le tour, j'espérais qu'il serait un peu moins bien aujourd'hui. Mais je n'y ai pas cru jusqu'à ce que je passe la ligne d'arrivée et qu'il arrive lui aussi. Et là, j'ai vu que j'avais gagné la course. C'est fou.
Tadej Pogacar qui crée donc la surprise la veille de l'arrivée en passant devant celui à qui le tour semblait pourtant promis, Eric Primoz Roglic.
Ouais, 11 jours qu'il était en jaune, Primoz Roglic, au soir de l'arrivée à La Reims après avoir enlevé la quatrième étape déjà à Orsières-Merlette. Et jamais depuis il n'avait été inquiété. Son équipe, la Jumbo-Visma, maîtrisant la course sans partage, éliminant ses adversaires les uns après les autres, a commencé par le vainqueur sortant, le Colombien Egan Bernal, contraint à l'abandon. Alors il restait bien cet enquiquineur de Pogacar, le gamin culotté qui restait à sa portée, mais de là à imaginer qu'il lui reprendrait 57 secondes aujourd'hui, et même le double, personne n'y croyait. Et c'est un Primoz Roglic sonné, mais fair play qui saluait la victoire de son cadet.
Évidemment, je suis déçu. Je voulais gagner, mais je vais devoir me contenter de cette seconde place qui, malgré tout, me rend heureux et fier. Je n'imaginais pas cette issue. Aujourd'hui, j'ai donné le meilleur de moi-même, mais apparemment, ça n'était pas assez. Tadej mérite sa victoire.
Victoire méritée pour Pogacar et troisième place tout aussi méritée pour l'Australien Richie Porte qui complète le podium, son premier en 10 Tours de France.
Un podium obtenu sur les terres d'un coureur qui rêvait, lui, de remporter ce Tour 2020, Thibaut Pinot.
Et Thibaut Pinot qui a roulé aujourd'hui sur des routes qu'il connaît par cœur, Christophe, passant même dans son village de Mélisey avant de rallier la planche des Belles-Filles. Cela aurait pu être dans la peau d'un potentiel vainqueur du Tour, mais le sort et sa chute dès la première étape en ont décidé autrement. L'émotion du vainqueur d'étape au Tourmalet l'an passé était pourtant palpable au micro de Thomas de Saint-Léger.
C'est vrai que je me dis que j'ai pas fait tout ça pour rien. Que grâce à tout ce que j'ai enduré, j'ai pu prendre une heure de plaisir. Et voilà, vivre ce moment, je pense qu'il n'y a aucun coureur qui l'a déjà vécu. Je pense que faire un chrono Tour de France, le dernier chrono dans son village, sur ces routes que je connais par cœur, on est passé devant mon lycée, mon école primaire, devant mon collège, devant la maison de chez mes parents. Donc forcément, personne n'a déjà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs qui l'ont vécu. Donc moi, j'ai eu cette chance-là. Et ces émotions que j'ai vécues sur ce chrono, et particulièrement dans mon village, ça vaut bien presque une victoire sur le Tour parce que j'ai eu des émotions fortes comme j'ai eu au Tourmalet, à l'Alpe d'Huez, c'était des moments un peu comme ça. Ouais.
Thibaut Pinot, malheureux encore cette année sur le Tour, et qu'il avait déjà quitté l'an passé lors d'une étape également historique, censée arriver à Tignes, mais finalement neutralisée. Merci beaucoup Éric Chorin, il vous reste un dernier effort à faire, remonter à Paris avec Thomas de Saint-Léger et Richard Rifono, vos indispensables camarades de périple, et nous faire vivre demain la 21e et dernière étape de Gala, 122 km entre Mantes-la-Jolie et les Champs-Élysées, où se accident, Tadej Pogacar revêtira non pas un mais trois maillots puisque outre le maillot jaune, il va remporter le maillot à poids de meilleur grimpeur et le maillot blanc de meilleur jeune. On ne va pas refermer cette séquence Tour de France sans donner la parole à celui qui vous aura fait vivre régulièrement ce tour de l'intérieur dans Mondial Sport et sur RFI.fr, le coureur de Cofidis, Pierre-Luc Périchon, qui s'est entretenu une dernière fois avec Thomas de Saint-Léger aujourd'hui à l'arrivée du contre-la-montre à la planche des Belles-Filles. Le dernier épisode de ses carnets de bord sera en fait à retrouver demain matin, mais en attendant, un petit extrait, l'expérimenté capitaine de route évoque la fin de cette aventure de 3 semaines et l'arrivée sur les Champs-Élysées.
Tous les ans, c'est un peu bizarre. Il y a des accumulations d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives, qui se génèrent pendant 3 semaines. Et souvent, à la fin des 3 semaines, il y a toute cette pression qui redescend. Il y a une grosse, grosse émotion. Et en temps normal, le Tour, c'est toujours le point central de la saison. Mais cette année, on est sur une année un peu particulière. Et on sait qu'après, c'est pas fini, que le Tour cette année est arrivé en début de saison, entre guillemets. Mais voilà, il y a encore derrière le Giro, la Vuelta, les Championnats du Monde la semaine prochaine, toutes les classiques ardennaises, flandriennes au mois d'octobre. Donc d'habitude, on se relâche pas non plus, mais c'est un autre sentiment. Après les champs, normalement, on fait un peu la fête. Là, demain, il y aura pas trop de fête. Covid oblige, on va rester relativement calme demain soir.
Alors, il reste quand même cette dernière étape demain, vers les Champs-Élysées. Une procession jusque dans les derniers kilomètres, il y a un pacte de non-agression en début d'étape entre les coureurs. Les spectateurs disent que c'est parfois un peu ennuyeux cette étape finale. Vous en pensez quoi et comment vous justifiez ça?
C'est le côté urbain de l'étape. Demain, on part de Mantes-la-Jolie pour rallier les Champs-Élysées. Faire une course ouverte toute la journée, c'est très très dangereux avec tout ce qui est îlots centraux, déviation. Il y a des gens qui sont sur Paris qui n'en ont rien à faire du vélo et tout ce qu'ils veulent, c'est vivre leur vie. Donc il y a des gens qui traversent. Il y a beaucoup de choses qui sont pas trop gérables sur cette étape-là. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un pacte de non-agression, parce qu'il y a un côté quand même assez aléatoire qui rentre en compte. Et c'est quand même vraiment dommage, après 3 semaines de bagarre intense, de perdre le Tour sur une chute, d'endommager notre fin de saison sur une fracture ou autre. Je peux comprendre que ce soit un petit peu ennuyeux pour les gens, mais c'est important pour nous de pas prendre de risques à ce moment-là de la course. Là, cette année, plus que les autres années, le Tour a été très intense et très éprouvant. Un manque de lucidité demain, avec un peu de relâchement ces derniers jours, la chute est vite arrivée. Et en plus, je crois que demain, ils annoncent quelques averses sur Paris, donc si en plus la course était ouverte, voilà, il y aurait vraiment trop de risques.
Pierre-Luc Périchon, qu'on retrouvera donc demain pour ses toutes dernières impressions sur ce Tour 2020. Ils sont sur le toit de l'Europe du football depuis près d'un mois sans que quiconque ait quelque chose à y redire. Et pour ceux qui oseraient contester cet état de fait, le Bayern Munich leur a adressé hier un message cinglant en levée de rideau de la saison 2020-2021 de Bundesliga. Un championnat où le suspense pourrait tourner plus court que l'an passé si les Bavarois restent sur le même régime que face à leur pauvre adversaire inaugural. Bonsoir Sophie Serbini.
Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous.
Correspondante en Allemagne, vous avez évidemment suivi ce match, ou plutôt cette humiliation infligée à Schalke 04 en guise de match d'ouverture, réservé traditionnellement d'ailleurs au tenant du titre. Il ne s'est pas privé de cet honneur en éparpillant le club de la Ruhr 8-0 et tout le monde, du cadre à la recrue, s'est régalé.
Et oui, hein, tous les joueurs ont accordé leur violon pour livrer une performance encore une fois parfaite. Serge Gnabry s'est particulièrement régalé en inscrivant 3 buts, dont celui qui a permis au Bayern Munich d'ouvrir le score. C'est le premier triplé du germano-ivoirien sous les couleurs du Bayern Munich. Robert Lewandowski s'est à un moment joué de la défense de Schalke 04 pour servir Thomas Müller d'un superbe coup du foulard. C'était pour le 6e but, le Polonais qui avait inscrit un peu plus tôt un but sur penalty. Leroy Sané, la recrue phare du Bayern cet été, c'est lui aussi illustré, très en jambes. Il a notamment inscrit son premier but pour sa nouvelle équipe et délivré 2 passes décisives. Et puis Jamal Musiala, auteur du dernier but bavarois, est devenu le plus jeune buteur du Bayern Munich en compétition officielle, à seulement 17 ans et 205 jours. Une nouvelle performance de gala pour le Bayern Munich. Et allez, si on doit un peu la relativiser, cette victoire, ce n'était pas un grand Schalke 04 en face, mais un Schalke 04 en pleine crise sportive et financière. Les Knappen n'ont gagné qu'un seul de leurs 18 derniers matchs en championnat. Les Bavarois ont finalement achevé un homme déjà à terre, serait-on tenté de dire. Alors certes, évidemment, vraiment avec la manière.
Alors après cette démonstration de force du Bayern, Sophie, on se demande un peu qui va vraiment pouvoir rivaliser. On pense évidemment toujours au Borussia Dortmund et désormais à Leipzig, hein, demi-finaliste de la Ligue des Champions. Dortmund opposé tout à l'heure à l'autre Borussia, Mönchengladbach, et net vainqueur 3-0.
Oui, une victoire importante pour le Borussia Dortmund face à un autre concurrent direct pour le titre. Car on rappelle, le Borussia Mönchengladbach a occupé la place de leader l'année dernière pendant 7 journées. Dortmund s'est imposé grâce à un but du jeune américain Giovanni Reinhardt qui n'a que 17 ans et un doublé d'Erling Haaland, la jeune pépite du BVB qui repart sur ses bases impressionnantes de la saison dernière et qui se place, on peut le dire, comme l'adversaire numéro 1 de Robert Lewandowski dans la course au titre de meilleur buteur. Le BVB qui a par ailleurs fêté le retour en championnat de Marco Reus, son capitaine, qui n'avait plus joué en Bundesliga depuis février dernier en raison d'une blessure. Il a été ovationné comme il se doit par les supporters présents à Dortmund ce soir. Et en ce qui concerne le RB Leipzig, il entame sa campagne nationale demain face à un adversaire largement à sa portée, Mayence. Le RB Leipzig qui n'a pas eu la même préparation que des clubs comme Dortmund ou Gladbach, du fait donc de sa présence au tournoi final de la Ligue des Champions. Mais Julian Nagelsmann, le jeune coach de Leipzig, assure que c'est un mal pour un bien, puisqu'au moins son équipe, hein, et je cite, n'a pas connu de passage à vide cet été. D'ailleurs, tout le monde est en pleine forme, à l'exception du milieu de terrain normalement titulaire Konrad Leimer, qui vient de se faire opérer du genou. L'objectif du club est clair, hein, surfer sur son beau parcours en C1 pour réaliser un début de saison canon en Bundesliga.
Sophie, un petit mot sur la question du public dans les stades. C'est important parce que on sait que la fréquentation moyenne y est la plus élevée de tous les grands championnats européens. Alors, le huis clos obligatoire pour cause de Covid-19 n'est plus de mise, mais les conditions pour aller supporter son équipe au plus près restent quand même contraignantes.
Et oui, avec le gouvernement fédéral qui a donc changé d'avis cette semaine, autorise le public à revenir, mais tout le monde ne peut pas aller au stade. Aucun déplacement de supporters adverses n'est autorisé, par exemple. Et les enceintes ne pourront être remplies qu'à maximum 20% de leur capacité. Par exemple, aujourd'hui, il n'y avait que 8500 femmes à Brême, alors que le stade peut contenir 42 000 spectateurs. Au Signal Iduna Park de Dortmund, il n'était que 9300 fans autorisés à pénétrer dans la mythique enceinte. Une fois dans le stade, les fans qui ont eu la chance d'être autorisés à venir sont espacés les uns les autres. Pas question donc d'être dans la même tribune que tous ses copains ou sa famille. Plusieurs sièges séparent des duos de spectateurs. Mais surtout, les fans peuvent être finalement priés de rester chez eux, et ce même quelques heures avant le match, si le taux de transmission du virus est trop élevé dans la ville où le match se déroule. C'est pourquoi il n'y avait pas de supporters donc à Munich hier pour le match d'ouverture, ou même à Cologne aujourd'hui, deux villes très touchées par le virus ces derniers jours. Finalement, le dernier mot revient toujours au ministre-président de région qui décide pour chaque match si les supporters peuvent venir au stade ou non.
Merci beaucoup Sophie Serbini en direct d'Allemagne. La Première Ligue, sachez d'abord qu'Arsenal a battu West Ham 2-1 tout à l'heure lors de cette deuxième journée et que Manchester United s'est incliné à domicile face à Crystal Palace 3-1 avec un doublé de l'Ivoirien Wilfried Zaha pour les Eagles. On reparlera de tout ça plus en détail demain après le choc Chelsea-Liverpool. Mais sans plus attendre, comme promis, les premières paroles en exclusivité d'un néo-vilain, Bertrand Traoré, le Burkinabé, poussé vers la sortie par Lyon a donc signé aujourd'hui à Aston Villa pour un peu plus de 18 millions d'euros. L'accord était en fait conclu depuis quelques jours déjà, mais il fallait régler au préalable un petit problème de permis de travail. Il n'en est pas à sa première expérience outre-Manche, évidemment, puisqu'il avait joué à Chelsea de 2014 à 2017. Mais Aston Villa n'est pas tout à fait dans la même catégorie. Le club a terminé la saison aux portes de la relégation. Qu'importe pour le cadre des étalons, car l'essentiel pour lui désormais, eh bien, de jouer et non plus de cirer le banc, comme il l'a expliqué à Martin Guest tout à l'heure.
J'ai 25 ans, j'ai plus de temps à perdre. Soit tu rentres dans les plans du coach, soit tu joues. Au football, à 25 ans, t'es plus un jeune joueur. Pas un jeune qui débute à 19 ou à 17-18 ans. À 25 ans, je dois jouer tous les matchs. Déjà, à 20 ans, j'ai joué tous les matchs dans un club. Je ne vois pas m'asseoir à 25 ans sur le banc. Maintenant, j'ai pris la décision de rejoindre un nouveau club, un nouveau projet, un club qui me voulait. Du coup, voilà, je suis content d'être là et de commencer une nouvelle aventure. J'ai passé 3 années à Lyon. J'ai fait mon temps là-bas et voilà, je suis content de mon passage à Lyon.
À 25 ans, vous voilà donc de retour en Angleterre. C'est là que tout a commencé pour vous. On se rappelle que vous aviez terminé votre formation de joueur à Chelsea. Est-ce que c'est le bon endroit pour vous relancer? Est-ce que c'est un championnat qui vous convient, l'Angleterre?
Le championnat anglais, voilà, renommé être le meilleur championnat au monde, c'est excitant de venir ici. J'ai eu à jouer ici avec Chelsea, ça fait plaisir de revenir dans ce championnat. Et je suis un jeu qui aime prendre du plaisir et j'espère je vais recommencer à prendre du plaisir sur le terrain de la Premier League.
Est-ce que vous arrivez un petit peu revanchard? Vous êtes parti d'un grand club en Angleterre. Vous avez peut-être perdu un petit peu de temps en route. Est-ce que maintenant vous voulez montrer à tout le monde ce dont vous êtes capable?
Je reviens pas du tout revanchard. Je reviens en tant que meilleur joueur avec plus d'expérience. J'ai réussi à quitter le centre de formation et jouer quelques matchs avec l'équipe première de Chelsea, marquer des buts. Et maintenant, je reviens avec plus d'expérience. Faire des bonnes choses, aider l'équipe à se maintenir en Premier League. Et je suis content d'être de retour.
C'est un championnat anglais où on voit que beaucoup d'internationaux africains s'épanouissent. On pense évidemment à Mohamed Salah, Sadio Mané, à Pierre-Emerick Aubameyang. Est-ce que c'est un petit peu des modèles pour vous, ce genre de réussite? Est-ce que vous dites, bah voilà, c'est peut-être un championnat pour moi où je peux aussi réussir comme eux?
C'est pas parce que les autres ont réussi que moi j'ai réussi. Je suis déjà passé ici auparavant. C'est à moi de faire les choses bien, de bien travailler, aussi me faire mon petit chemin voilà, dans ce championnat.
Enfin, une dernière question, Bertrand. On sait que vous êtes très attaché à votre pays d'origine, le Burkina Faso. Les étalons, ouais. ils vont revenir sur les pelouses en octobre. Ça fait presque un an qu'on ne les a pas vus à l'œuvre. Vous qui êtes toujours l'un des grands espoirs du pays, on imagine que c'est un objectif de devenir l'un des leaders de cette équipe.
Je ne suis plus un espoir du pays. Ça fait 9 ans que j'ai joué en équipe nationale. Et voilà, je suis considéré comme un leader de l'équipe et voilà, j'assume ce costume. Plus d'un an que j'ai pas joué un match officiel, même si ça sera qu'un match amical, ça me ferait plaisir de reporter ce maillot et revoir mes coéquipiers de la sélection.
Et ce sera contre un adversaire qu'on connaît bien maintenant en Afrique, que vous allez affronter Madagascar. C'est un beau challenge de jouer contre eux pour le retour des sélections africaines.
Oui, bien sûr, c'est un bon challenge. Ils ont fait une bonne Coupe d'Afrique. Et voilà, ce sera bien aussi pour nous, vu que notre équipe est un peu en reconstruction, de se préparer pour les prochaines échéances. C'est toute l'image de la sélection qui change avec beaucoup de jeunes qui viennent. Quand je parle de jeunes, je parle des joueurs de 18, 19 ans, 20 ans, qui vont beaucoup plus jouer maintenant. Avant, il y avait des têtes que vous connaissez bien, Pitroipa, Bansi, Bakary Koné. Il y a une nouvelle génération à apporter, on va le faire ensemble. Bien sûr que j'assume mon rôle de leader au sein de cette équipe.
Bertrand Traoré, nouveau pensionnaire d'Aston Villa qui affrontera Sheffield lundi. Autre transfert officialisé ce samedi sous forme de prêt pour l'instant et surtout en forme de retour, celui de Gareth Bale, le Gallois, plus en odeur de santé au Real Madrid, revient pour un an chez les Spurs où il avait fait les beaux jours du club de 2007 à 2013 avant de partir au Real pour une somme record à l'époque, 101 millions d'euros. Et puis en Ligue 1, 2 nouveaux matchs aujourd'hui dans le cadre de la 4e journée. Rennes s'empare provisoirement de la tête du classement en battant Monaco 2-1. Même score en faveur de Lens face à Bordeaux grâce au Camerounais Inicius Ganago, décidément très en forme depuis le début de la saison. Et un pénalty du Congolais Gaël Kakuta. Réduction in extremis du score pour les Girondins signé du Nigérian Samuel Kalou. L'essentiel du programme aura lieu demain avec notamment Nice-PSG et le retour de Kylian Mbappé dans le groupe parisien après son test positif au coronavirus. Virus ainsi que Marseille-Lille. Allez, cap sur l'Amérique du Sud à présent, où la Copa Libertadores, l'équivalent continental de la Ligue des Champions, a repris cette semaine après 6 mois d'interruption. Un nouveau départ complètement raté pour les tenants du titre. Les Brésiliens de Flamengo, battus 5-0 par les Équatoriens d'Independiente del Valle dans le cadre de la 3e journée de la phase de poule. Les 5 équipes argentines en lice dans la compétition, elles, ont connu un redémarrage en demi-teinte. River Plate et Boca Juniors, les deux formations phares, s'en sont quand même bien sortis. Mais le bilan aurait pu être bien plus mauvais, car le pays, durement touché par le coronavirus, a été placé sous cloche pendant 5 mois et vit toujours avec des restrictions sanitaires particulièrement draconiennes. Du coup, s'entraîner était devenu quasiment impossible et cela aurait pu grandement handicaper les clubs concernés. C'est un reportage à Buenos Aires de Jean-Louis Buchet. Attention, préparez vos oreilles.
De River.
Pas une âme dans les gradins, Covid oblige, mais les commentateurs télé font l'ambiance. En tout cas, les deux grands du football argentin, River et Boca, n'ont pas raté leur retour à la compétition avec la reprise de la Copa Libertadores. On craignait pourtant le pire, parce qu'ils n'avaient pas joué depuis le mois de mars, contrairement à leurs adversaires. En effet, en Argentine, le championnat est toujours suspendu pour raisons sanitaires, alors que dans la plupart des autres pays de la région, y compris les plus affectés par le coronavirus, on joue depuis plusieurs semaines. Cela n'a pas empêché River d'aller défier les Brésiliens de Sao Paulo en un déplacement qui s'annonçait pourtant périlleux. Score final 2-2, un résultat chanceux pour les paulistes qui ont été dominés. À l'issue du match, Marcelo Gallardo, l'entraîneur des Rouges et Blancs, était très satisfait. Sous son masque, on le devinait souriant.
La réponse de l'équipe aujourd'hui a été une réponse satisfaisante, très satisfaisante. Imaginez, après 6 mois sans jouer, venir au Murumbi pour affronter une équipe qui joue son championnat et a une dynamique de plusieurs matchs, et faire le match que nous avons fait aujourd'hui. Je crois que cela dit beaucoup de l'effort des joueurs. Ce n'était pas facile, après autant de temps sans jouer, ce n'était pas facile de se poser sur le terrain comme on l'a fait, et je suis très content de la réponse de mes joueurs.
De l'équipe.
Si la performance de River est à saluer, Boca a fait encore mieux en allant battre Libertad dans son antre d'Asunción, 2-0 sur 2 buts d'Eduardo Salvio, l'homme du match. Les Paraguayens ont été surclassés par des bleus et or qui n'ont jamais douté, comme le dit le défenseur Carlos Izquierdos.
C'est vrai que nous avons tout juste repris les entraînements, mais le plus important est que la base de l'équipe n'est pas changée. Les joueurs sont pratiquement les mêmes que ceux qui jouaient avant le début de la pandémie qui a conduit à suspendre les compétitions. Comme on se connaît bien et que l'on sait ce que veut notre entraîneur, Miguel Ángel Russo, c'est assez facile d'appliquer le plan de jeu sur le terrain. Au-delà de certaines performances individuelles qui ont été très bonnes, c'est le travail collectif qui est important.
Ramon Díaz, l'entraîneur argentin de Libertad, ne pouvait que reconnaître la supériorité de Boca.
Boca a vraiment un très haut niveau de jeu. C'est le dernier champion du foot argentin, il ne faut pas l'oublier. Ils font un grand travail d'équipe. Il y a longtemps qu'ils jouent ensemble et je crois que contre cela, nous n'avons pas su apporter une réponse. Ils ont bien gagné en montrant leur qualité. Nous avons essayé de faire un match avec beaucoup de rythme, beaucoup de dynamisme, mais la qualité de Boca s'est imposée. Et ils ont un joueur très important, Salvio, un attaquant difficile à marquer, très profond, de classe internationale, comme il l'a montré sur ses 2 buts.
Les autres clubs argentins engagés dans la Libertadores, Racing, Defensa et Tigre, n'ont pas non plus paru sentir le manque de compétition. Sauf Tigre, sévèrement battu par Guarani, il ne devrait pas avoir de difficulté à accéder aux phases finales comme River et Boca. Confirmation dans les jours qui viennent, à l'occasion de la 4e journée, toujours dans des stades vides et avec des stricts protocoles sanitaires pour joueurs et dirigeants. Jean-Louis Buchet, Buenos Aires, RFI.
Et parmi les matchs à suivre de cette 4e journée de la Copa Libertadores, dans la nuit de mardi à mercredi, en heure française et en temps universel, Flamengo encore face à des Équatoriens, Barcelona Sporting Club, pas de lien direct avec le Barça catalan, en 1000 logos, et River Plate chez les Péruviens de Binacional, pour sa part Boca Juniors affrontera les Colombiens de Medellín dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a été la figure emblématique d'une sélection pionnière dans l'histoire du football togolais. Herman Oungpati, capitaine des Éperviers, premier participant à une CAN, c'était au Cameroun en 1972. Sa disparition le 9 août dernier à l'âge de 75 ans a beaucoup ému les contemporains de cette époque où ce défenseur, passé notamment par le FC 105 au Gabon, club qu'il avait entraîné d'ailleurs par la suite, était particulièrement redouté. Ses funérailles étaient organisées ce week-end sur deux jours, une veillée hier soir et les funérailles aujourd'hui en l'église Saint-Antoine de Padoue à Lomé, en présence notamment de nombreux sportifs et de notre correspondant sur place, Comlan Eclou.
Ils étaient nombreux, parents, amis et joueurs, à venir prier en l'église Saint-Antoine de Padoue de Hankopé pour le repos de l'âme du disparu. Parmi l'assistance, le général Seyi Memen, vice-président honoraire de la Confédération africaine de football et ancien président de la FTF.
Il a été un des grands joueurs du Togo. Il est normal qu'on lui rende des hommages pendant des années. Il a porté très haut le flambeau togolais à travers l'Afrique, à travers le monde.
Ancien ministre des Sports et ancien joueur du club Essor de Lomé, Horacio Freitas a également fait le déplacement.
En tant qu'ancien responsable des sports au Togo, je dois venir lui rendre hommage et c'est ce que j'ai fait ce soir.
Curieuse coïncidence, la messe a été célébrée par le père Denis Podar qui, enfant, allait voir jouer Ressort.
Il était élégant. Comme défenseur, ce n'était pas facile d'être élégant. Il avait toujours une certaine élégance. Je disais même qu'il était esthète, amoureux du beau jeu, avec le résultat à la fin quand même. C'est comme cela que je l'ai connu. Si on transportait ce joueur-là à notre époque aujourd'hui, à coup sûr, il allait faire carrière dans un grand club.
Des qualités qui, selon son coéquipier, le portier Indike Maye, lui ont valu le surnom de Ressort.
Comme il est grand de taille, et des fois, il a des enjambées très importantes. C'est à partir de là qu'on lui a donné ce nom. Même si la balle est haute, il est capable d'aller chercher ça de la tête. Il se fait respecter par les attaquants adverses. Il ne te dit pas que tu l'as déjà dépassé et allé marquer le but. Au dernier moment, il viendra sur le ballon. Il a de ses tacs glissés, il va sur le ballon et au bon moment, voilà.
Au plan international, Ressort a également marqué les esprits. Cheikh Fantamadi Diallo, ancien international malien.
À travers Ressort, les défenseurs, Corias, Yana. L'homme était un bon joueur, courageux, très accrocheur. C'était pas facile de le dépasser. Moi, c'est un footballeur, un homme qui m'a aidé pour la suite de ma carrière.
Ressort a fait des émules. De grands défenseurs togolais comme Lawson Plaka, Denke Oazo, Koyovi Mawena ont pris la relève dans les années 80-90. Comme l'a Eklou Lomé RFI.
Voilà le tout dernier hommage à Herman Oungpati, l'ancien capitaine des Éperviers du Togo. Quelques infos en bref avant de se séparer. D'abord en rugby, la qualification du Racing 92 pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Les Parisiens se sont imposés 36 à 27 sur Clermont et retrouvons en demi-finale les tenants du titre, les Anglais de Saracens. Les Saracens qui sont gagnants d'ailleurs à Paris pour disputer ce match. Demain, autre quart de finale contre Toulouse, entre Toulouse et les Irlandais de l'Ulster. Dans le challenge européen, la seconde Coupe d'Europe, qualification pour les demi-finales de Toulon qui a battu les Gallois de Scarlets 11 à 6. Ils affronteront en demi-finale les Anglais de Leicester. C'est terminé en revanche pour Castres dans ce quart de finale de challenge européen, non pas sur le terrain mais tout simplement sur tapis vert. L'équipe a été contrainte en effet de déclarer forfait face à ce match prévu dimanche en raison de 4 cas de Covid-19 dans son effectif et dans son encadrement. En tennis, la surprise de la soirée, c'est l'élimination de Rafael Nadal en quart de finale du Masters 1000 de Rome. L'Espagnol s'est incliné face à l'Argentin Diego Schwartzmann en 2-7, 6-2, 7-5. C'était son tout premier tournoi après la pause forcée en raison du coronavirus. On trouvera évidemment Nadal à partir de la semaine prochaine à Roland-Garros. Qualification en revanche, toujours dans ce Masters 1000 de Rome, de Novak Djokovic pour les demi-finales en disposant en 3-7 de Dominic Kupfer, l'Allemand issu des qualifications 6-3. 4-6, 4-6, 6-3. Voilà, Mondial Sport renvoie tout le monde au vestiaire pour ce soir. Merci à Hélène Avril pour la réalisation. Si vous êtes arrivé en cours de route, pas de soucis, séance de rattrapage dans quelques minutes sur le site RFI.fr, rubrique podcast ou via la page Facebook Mondial Sport RFI. N'oubliez pas non plus l'appli RFI Pure Radio pour écouter votre émission préférée en vous baladant. Voilà, rendez-vous demain à 21h30 pour une nouvelle édition de Mondial Sport. Dans un instant, 24h en France. Bonne soirée. L'épopée des